Bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nommé le 1er avril 2024. Madame Judith Suminwa au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Cette nomination première dans l'histoire de la RDC fait de Judith Suminwa la première femme congolaise à accéder à la primature depuis 1960. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, on va y arriver, avait-elle déclaré juste après l'annonce de sa nomination. Une année après, justement, sa nomination à la tête du gouvernement congolais, quel bilan dressé de sa gestion sur le plan socio-économique et sécuritaire? Nous en parlons ce soir avec Jean-Michel Kialongi, membre de la coordination du regroupement de Zabar TDC, Mosaïque de l'UDPS, sous la coordination du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Jean-Michel Kialongi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Avec moi dans ce studio, Prince Epengue, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo. Il est membre de la plateforme Lamouka et parmi les porte-parole de cette plateforme, Prince Epengue, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Gaucher Kizito, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université catholique des Grabène et à Butembo, Nord Kivu. Gaucher Kizito, professeur Gaucher Kizito, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs.
À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la 102.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV Canal 867. Vous pouvez également nous suivre en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 1er avril 2024, une page de l'histoire de la RDC s'écrivait avec la nomination de Judith Suminwa Tuluka au poste de première ministre. Une première dans le pays, faisant d'elle la première femme à occuper cette fonction. Un an plus tard, l'heure est au bilan. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, on y arrivera, avait déclaré Judith Suminwa lors de sa nomination. Des mots forts suivis d'engagements précis lors de son investiture, mettre en œuvre les 6 priorités du second mandat du président Félix Tshisekedi. Parmi elles, la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat et le renforcement de la sécurité pour tous. Un an après sa prise des fonctions, la question se pose, quels sont les résultats concrets? Grâce à Hamzati pour le reportage.
Pour la majorité au pouvoir, au-delà d'être honorée par le président de la République à la nomma première ministre, Judith Suminwa est à la hauteur de ses responsabilités. Elle répond aux attentes de la population congolaise. C'est ce que pense notamment Bintou Tshabula, cadre de l'UDPS et député national honoraire. Tout en reconnaissant les défis qui sont encore à relever, notamment sur le plan sécuritaire, ces membres de l'Union sacrée brandissent la réussite de la première ministre sur le plan économique.
Il faut dire que plus d'une année après, dans ce qu'on peut retenir de positif, c'est qu'il y a la stabilité monétaire en ce qui concerne le taux d'échange. Donc, bien qu'il y avait des fluctuations quand elle est entrée en fonction, mais depuis 6, 7, 8 mois, le taux de dollar nage entre 28 et 29. La dernière décision prise par le chef de l'État lors du Conseil des ministres, en ce qui concerne la multiplication par deux des salaires des militaires ainsi que des policiers.
Du côté de l'opposition, la nomination de Judith Suminwa est un échec total. Son bilan est catastrophique sur tous les plans, affirme Prince Epengue, l'un des porte-parole de la coalition Lamouka. Pour lui, depuis sa nomination, Mme Suminwa joue un rôle très effacé.
Ça ne nous surprend pas. L'échec de Mme Tuluka s'explique par le fait que Félix Tshisekedi à la nomma voulait tout simplement amuser la galerie. Elle avait parlé des 6 axes prioritaires qui correspondaient à la vision de son chef. Elle avait parlé de la création des emplois. Nous n'en voyons pas. Elle avait parlé de la lutte contre la corruption. Jamais un régime ou un gouvernement n'a été aussi corrompu que les siens. sans parler de la sécurité. La paix qu'elle avait promis comme étant celle qui gouverne le Congo au quotidien.
Quant à la société civile, elle affirme que la population congolaise est déçue un an après la nomination de Judith Suminwa sur le plan socio-économique et sécuritaire. Selon Jonas Sombé, la coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, la plus grande réussite de Mme Touluka est diplomatique.
Sur le plan social, la situation reste catastrophique parce que le salaire du fonctionnaire n'a pas été valorisé. Le pouvoir d'achat de la communauté qui travaille a sensiblement baissé. Le panier de la ménagère est devenu le sachet troué de la ménagère parce que le pouvoir d'achat a sensiblement baissé. Donc sur le plan social, Mme Soumine Judith n'a pas assez convaincu. Sur le plan judiciaire, l'impunité et la corruption s'est généralisée. Il faut reconnaître aussi le travail de Mme Judith. C'est sur le plan diplomatique où ils ont fait des exploits extraordinaires. La crise congolaise est aujourd'hui reconnue par la communauté internationale. Les sanctions y arrivent. Donc nous pouvons saluer sur le plan diplomatique.
Toutefois, la société civile encourage la première ministre à fournir plus d'efforts afin de répondre aux aspirations du peuple.
Merci Grace Amzati pour ce reportage. Jean-Michel Kialongi, membre de la coordination du regroupement de Zaba TDC, mosaïque de l'UDPS, sous la coordination du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Le 1er avril 2024, je l'ai dit, dans le sommaire, une page de l'histoire de la RDC s'écrivait avec la nomination de Judith Touluka comme chef du gouvernement de la RDC. Voilà, ça faisait d'elle la première femme à occuper cette fonction depuis 1960, une année après. Quel bilan peut-on dresser de sa gestion de façon globale, hein, avant de parler du social, de la sécurité et même de l'économie?
Oui, de manière globale, nous allons dire que le bilan est positif par rapport à la projection qui est faite, parce que vous devez savoir que quand elle a été nommée comme première ministre, elle a présenté son programme de gouvernance auprès de l'Assemblée nationale qui a été validée, ce qui fait que son plan d'action est étalé sur 5 ans. Donc on ne peut pas dire qu'elle a échoué, comme j'ai entendu Etienne dire, c'est normal, il est de l'opposition. Mais il faudrait avoir analysé son plan d'action qui a été présenté et l'évaluer par rapport à une année et savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui reste à faire. S'il faudrait analyser la gouvernance de son Excellence la Première Ministre, Madame Souminoua, vous devez savoir que sur le plan macroéconomique, elle a pu stabiliser le dollar. Nous avons connu pendant les 3 dernières années une situation du taux d'échange qui ne pouvait permettre à aucun opérateur économique ou investisseur de se projeter sur 6 mois. Alors qu'aujourd'hui, pendant une année, nous avons un taux de dollar stabilisé. Sur le plan social, le panier de la ménagère a sensiblement
Jean-Michel Kialongi, c'était de manière globale hein, que je voudrais demander d'analyser le bilan, de dresser le bilan de Madame Touluka, première ministre de la RDC. Alors, on retient pour vous que son bilan est positif et répond aux attentes des Congolais. On peut résumer ça comme ça.
Nous le disons dans sa globalité.
Merci.
Dans sa globalité, le bilan a été positif.
Prince Epengé, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD, Congo, parti membre de la plateforme Lamouka. Vous êtes parmi les porte-parole de cette plateforme de l'opposition. Pour vous, le bilan, vous a suivi dans ce reportage de Grace Amzati. Vous estimez que le bilan est largement négatif. Vous le dites parce que vous êtes dans l'opposition, il faut critiquer le gouvernement où il y a des preuves palpables, il y a des choses concrètes qui vous poussent à penser, à dire que c'est le bilan est négatif.
Merci madame. Le bilan de madame Judith est désastreux. Dit que c'est négatif est un euphémisme. Rappelez-vous, quand, deux jours après son installation, je vous avais dit que Madame Judith était une version féminine de Samuel Kondé. Madame Judith n'a pas été nommée pour donner un résultat. Elle a été installée à la tête du gouvernement pour des raisons communicationnelles, politiques, féministes et esthétiques. Si vous regardez depuis qu'elle est là, elle joue un rôle plus qu'effacé. Elle est là pour inaugurer le chrysanthème. Vous regardez dans tous les compartiments gouvernementaux ou les secteurs gouvernementaux, vous allez vous rendre compte que partout, elle a pris la tasse. Vous partez de la diplomatie dont le monsieur vient d'évoquer, au niveau de la politique intérieure, vous allez au niveau de la défense, au niveau du social, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, la lutte contre la corruption dont elle avait prétendu faire son cheval de bataille, vous allez vous rendre compte que Madame Judith a complètement échoué.
Merci.
Globalement, son bilan est un bilan désastreux.
Et merci, je vais entrer dans les détails. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Professeur Gaucher Kizito, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'Université catholique des Graben à Butembo, au nord Kivu. Quel bilan dressez-vous de la première ministre Judith Suminwa Tuluka depuis sa nomination comme première ministre?
Merci pour la parole, madame. Et madame Judith Suminwa a été nommée en ce poste depuis le mois d'avril de l'année passée, et donc ça fait pratiquement une année depuis qu'elle est aux affaires. Et depuis qu'elle est aux affaires, comme je viens de dire, elle a pris la fonction lorsque le pays traversait un moment difficile du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue socio-économique. Du point de vue sécuritaire, comme vous le savez bien, la partie orientale de notre pays, elle est à proie à l'insécurité. L'insécurité causée par les EDF, l'insécurité causée par le M23 avec l'AFD, avec le soutien de certaines forces étrangères, mais aussi sur le plan socio-économique, la stabilité de la monnaie est réellement un problème délicat parce qu'il ne passait pas une semaine sans qu'il y ait une fluctuation exactement de la monnaie, mais aussi parfois la rareté de produits ouvriers sur le marché, des produits de première nécessité. Elle prend les rênes du gouvernement dans un contexte comme celui-là. Il y a des actions qui ont été posées conformément au programme qu'il avait présenté devant le député, ainsi que l'équipe qui devait chapeauter ce programme d'action. Et bien évidemment, ce programme d'action, il est déjà mis en œuvre. Et ce que je puisse rappeler à ce moment aussi, c'est que l'année passée, on sait qu'il y a eu des mouvements de grève, notamment dans les secteurs de l'éducation, que ce soit au niveau du niveau primaire, ainsi qu'au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Bien évidemment, avec ce mouvement de grève juste avant la rentrée scolaire au niveau de l'école primaire et la rentrée de l'année académique 2024-2025, ces soubresauts n'ont pas réellement donné un élément positif par rapport aux actions qui avaient déjà été planifiées dans le programme. Mais quand cela ne tienne,
on peut dire que le bilan, selon vous, est mitigé.
Le bilan, il est exactement mitigé.
Merci, professeur Gaucher Kizito. Jean-Michel Kialongi, je rappelle que vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Avec la nomination d'une femme à la primature, pensez-vous, voilà, une année après la nomination de Judith Tuluka comme première ministre, une première dans l'histoire de la RDC, est-ce que cette nomination a influencé selon vous le style de gouvernance et les priorités politiques? Jean-Michel Kalongi? Jean-Michel Kalongi, est-ce que vous êtes en ligne? Je pense que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Est-ce que ça va avec Jean-Michel? Non, ça va pas. On va essayer de le rappeler. Alors, presse épinglée, pour vous, je pense que la réponse est déjà non, hein, à la question que je posais à Jean-Michel Kalongi. Est-ce que la nomination de Madame Judith Soumina, une première dans l'histoire de la RDC, une femme à la tête du gouvernement. Alors, on me signale que Jean-Michel est en ligne. Jean-Michel, vous êtes là?
Je suis là, Madame Kéline Kouté.
Vous m'avez suivi, la question, ou bien vous voulez que je la réponde?
Effectivement, j'ai suivi la question et je voudrais vous dire d'emblée des jeux, je voudrais d'abord donner une précision que Madame Judith Soumina Tuluka a été nommée première ministre, pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle avait un parcours élogieux et une compétence à pouvoir donner et mettre à la disposition de la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas que l'on s'attelle pour dire que c'était la première femme, mais c'était une compétence qui a été choisie parmi tant d'autres pour gouverner la République démocratique
du Congo. Mais c'est une première dans l'histoire de la RDC.
C'est une première dans l'histoire de la RDC, mais c'est la compétence qui a prévalu. Donc je ne voudrais pas qu'elle soit juste réduite au fait que c'était une femme. Mais c'était une personne compétente qui a été ancienne membre du gouvernement, ministre du plan, qui a géré le précieux programme du chef de l'État, qui est le 145 territoires. Le seul programme qui, pendant sa gestion, nous n'avons pas entendu une seule fois un problème de détournement, de corruption, alors que c'est un programme en milliards de dollars. Nous savons que dès qu'il y a eu des petits programmes qui ont valu 50, 100 millions de dollars, il y a eu toujours des problèmes de détournement. Et alors qu'avec elle, c'était une gestion orthodoxe. C'est ça ce qui a valu sa nomination comme membre du gouvernement. Maintenant, elle est première ministre.
Allez-y.
Allô? Maintenant, elle est première ministre, elle a présenté un programme du gouvernement qui s'étale sur 5 années. Nous pouvons dire que pendant la première année, elle a pu gérer avec brio et maîtriser le problème du taux d'échange qui permet aujourd'hui aux investisseurs, aux opérateurs économiques de se projeter dans toutes les opérations financières sans pouvoir être secoué par le taux d'échange, par la dévaluation du franc congolais. Aujourd'hui, elle a pu stabiliser et offrir un pouvoir d'achat meilleur au peuple congolais. Et cela, c'est par des mesures qu'elle a pu mettre en place en retirant la TVA sur les produits de première nécessité, sur le carburant et aussi à l'importation sur les produits qui sont liés au secteur des ciments. Donc aujourd'hui, la construction, la reconstruction du pays peut se faire sans problème parce que le ciment est stabilisé sur un prix abordable qui est le même prix que dans tous les pays de la sous-région et pays frontaliers parce qu'on a retiré la TVA. Elle a retiré la TVA et elle a donné des subventions sur l'importation du carburant. Elle a fait de même sur les produits de première nécessité. Il faudrait comprendre que, en retirant la TVA, elle retire de l'argent qui devrait entrer dans les caisses de l'État. Mais non seulement qu'elle ait fait cela, elle a pu payer les fonctionnaires dans le temps, elle a pu respecter tous les engagements gouvernementaux. Donc il faudrait dire que sa gestion orthodoxe, sa gestion sur une planification qui est faite de manière ordonnée, aujourd'hui porte des fruits.
On peut dire que sa gestion, comme vous le dites là, Jean-Michel Kalongi, vous parlez d'une gestion orthodoxe. Peut-on dire que cette gestion a amélioré les quotidiens des Congolais?
Effectivement, et cette gestion a amélioré le quotidien des Congolais parce qu'aujourd'hui, tu peux faire ton budget au début du mois et le respecter jusqu'à la fin du mois parce que le prix du carburant reste le même. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité restent inchangés. Les prix pour ceux qui sont dans l'investissement, dans la construction, tu vas payer le sac du ciment au même prix, sans que cela n'échange tous les jours. Donc elle a apporté des solutions et une stabilité. Maintenant, il faudrait savoir que la destruction de l'État congolais, de la structuration de l'État congolais, était tellement forte que les mesures que le gouvernement est en train de prendre prennent du temps pour se ressentir. C'est vrai que le besoin du peuple congolais est multiple et que chaque jour, il faudrait répondre de manière efficace à cela. Elle s'y attelle. Mais cet élan vers le développement, vers la maîtrise du macroéconomie est directement floué par cette guerre d'agression qui nous est imposée. Vous devez savoir que pendant une année, le budget pour la défense, pour la sécurisation du territoire, a été multiplié par deux ou par trois. Nous sommes dans une guerre d'agression qui nous amène, non seulement qu'il faut financer la guerre, il faudrait financer les déplacements de la population. Ce sont des questions humanitaires énormes auxquelles il faudrait répondre. Nous avons plus de 10 millions de réfugiés internes. Ce sont toutes ces situations qui viennent freiner cet élan et auxquelles elle fait face. Mais même en faisant face à cette situation de guerre, même en faisant face aux déplacés internes, même en faisant face à toutes ces multiples situations, vous devez savoir que le paiement des fonctionnaires, les engagements de l'État sont tenus à date. Donc c'est des efforts immenses et c'est cette façon de gérer que nous devons saluer parce que cette dame démontre qu'elle fait un travail. Et comme le président de la République l'avait souligné, elle est hautement outillée pour gérer le pays dans cette situation de guerre.
Merci Jean-Michel.
Madame Soumignon est à sa place.
Merci Jean-Michel Kalongi, Prince Epengue, vous êtes cadre de la plateforme Lamouka, bilan plus que positif de Madame Souminois, gestion orthodoxe, le quotidien des Congolais très positif, selon Jean-Michel Kalongi. Il a donné des exemples, hein, concrets, stabilisation de la monnaie, les fonctionnaires sont payés, on respecte les dates de paiement des fonctionnaires. Comment vous réagissez?
C'est tout simplement de la masturbation. Monsieur Kalongi vit en Allemagne d'Afrique. C'est de la masturbation intellectuelle. Je vais ici être factuel. Mais c'est quand je vais approcher l'ombre, moi je vais approcher les faits. Je commence par vous rappeler les quelques phrases de Mme Judith devant les députés de l'Union Sacrée avant qu'elle n'aille au Parlement avec son programme. Elle avait dit ceci. Notre ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé, avec une économie plus diversifiée et compétitive, et parvenir à une société plus juste pour un développement durable. Je ne vais pas ici dévoiler l'ensemble du programme d'action du gouvernement, mais il faut noter que le cadre stratégique de planification de ces documents est structuré en 6 piliers qui reflètent les 6 engagements du président de la République. Je vous épargne le reste. Ça, c'est Mme Judith qui dit, devant les députés de l'Union sacrée.
On peut parler de ces six piliers. Il y a l'économie nationale, la sécurité, l'aménagement du territoire, le bien-être social, le renforcement des capacités des Congolais, la gestion responsable de l'écosystème.
Je vais merci beaucoup, madame. Je reste encore, donc je vais revenir moi-même. Allons dans les détails maintenant. Elle dit, notre ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni. Une année après son investiture, est-ce que le Congo est uni? Le Congo est plus que jamais divisé. Le Congo vient d'effectuer son premier pas vers la balkanisation. Quand elle parlait ainsi, Bukavu, Minova, Goma n'étaient pas encore passés sous pavillon rwandais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai continué. Elle dit, elle ajoute, un État beaucoup plus uni et mieux sécurisé. Est-ce qu'elle a réussi à sécuriser l'État congolais? La réponse est non. Avec une économie plus diversifiée et compétitive. Est-ce que l'économie congolaise aujourd'hui, une année après son installation, est diversifiée? Est compétitive? Nous perdons sur tous les plans. Aujourd'hui, madame, les risques payés sont tellement élevés que c'est très difficile d'emprunter à l'extérieur. On va vous donner des taux tellement salés que vous ne pouvez pas emprunter. Nos banques, nos frères qui sont dans le microcrédit souffrent. Parce qu'aucun pays sérieux ne peut venir investir son argent dans un pays comme le Congo, dans ce contexte ici. Donc l'économie n'est ni diversifiée, n'est ni compétitive. Et elle dit, pour terminer, et parvenir à un développement durable. Madame, tout ceci n'a pas eu une suite plutôt favorable. Je passe maintenant aux fameux six piliers dont elle a parlé. Quand elle est allée au Parlement, elle avait présenté un programme évalué à 92,9 milliards de dollars, 6-5 ans. Donc en moyenne, 18 milliards par an. Elle avait dit ceci. Le programme du gouvernement est calqué sur les six axes de M. Félix Tshisekedi, tel que Félix avait annoncé le 20 janvier au stade des Martyrs lors de son investiture. Comme je vous ai dit, moi je vais rester au fait parce que M. Kalonji est en train de spéculer. Laissez-moi. Vous voulez m'écarter du débat.
Je ne vous écarte pas, mais en parlant de l'économie, pour vous, tout est noir. Pas de croissance économique en RDC. Pourtant, le FMI avait salué les mesures prises par le gouvernement congolais.
Même quand le pays est en train de sombrer, le FMI salue toujours. Ce n'est pas étonnant. Premier pilier, créer plus d'emplois. Il a parlé de 6 millions d'emplois. En accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, alors qu'aujourd'hui, madame, les jeunes entrepreneurs souffrent. Pour accéder à un crédit à la banque, c'est un parcours de combattant. Pour avoir des documents pour créer sa société, vous pouvez faire 6 mois. Encore, il faut corrompre. La corruption bat son plein. D'ailleurs, son ministre de la Justice, Moutamba, lui-même, dans une réunion, a dit à Madame Judith et ses ministres que ça puait la corruption dans la salle. C'est Moutamba qui l'a dit, ministre de la Justice, son État, qui a dit que ça puait la corruption, alors que Madame Judith était à moins de mettre de lui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas créer des emplois, on ne peut pas donner des emplois à ces conditions. Mais c'est Félix Tshilombo lui-même est parti au Katanga, il dit aux jeunes, je vous avais promis des emplois, mais sachez que l'État ne crée pas des emplois. Donc, ça, c'est le premier pilier, échec. Il n'y a rien. Deuxième pilier.
Il faut vous résumer, Président Pengue. Vous n'avez pas tout le temps.
Mais c'est Kalonji, j'ai pris une heure, vous n'avez pas
non, dit. Non. Il a parlé.
Deuxième pilier. Il n'a pas deuxième engagement. Protéger les pouvoirs d'achat des Congolais. Je ne sais pas s'il comprenait ce qu'il. Quand elle parlait de pouvoir d'achat. Cette capacité d'acheter aujourd'hui, d'acheter demain, avec le même prix, avec la même bourse. Qui a encore un pouvoir d'achat, madame? Vous avez votre pouvoir d'achat? Personne, à part les gens de la présidence, et celle qui sont la primatrice, madame, elle-même, on a perdu notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vous donnez 20 000 francs à votre femme pour aller au marché, demain, il faut 30 000. Au point qu'aujourd'hui, quand il parle même à la jeunesse n'a rien, la jeunesse n'achète rien. Nous vivons tous de winners et de Paris Foot.
Nous sommes tous, même vous, madame, j'espère que vous ne jouez pas au winner, mais tout le monde joue au winner. Tout le monde joue au winner, tellement que la vie est difficile au Congo. Dans quel pays où 80% de la population vivent des paris sportifs? Ça veut dire que c'est une expression de la dégradation du tissu économique. Il n'y a plus rien. Un roulage qui quitte à 12h, vous croyez qu'il est parti en pause, il est parti jouer au paris foot. Voyez-vous les jeunes filles de 18 ans qui vous parlent du championnat de football d'Azerbaïdjan ou du Corée, de la Corée. Pour vous dire que la situation s'est dégradée davantage, laissez-moi vous parler des...
Non, vous êtes trois dans le débat.
Vous voulez protéger Kalonji, madame.
Troisième pilier,
c'est la sécurité.
On va revenir sur la sécurité. On va rester d'abord sur l'aspect...
On va
parler de la sécurité juste après les auditeurs. Professeur Gaucher Kizito, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'Université catholique de Grameen à Butembo. Alors parlons du social, de l'économie, de la situation socio-économique de la RDC une année après la nomination de Madame Judith Toulouka. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le social des Congolais s'est amélioré? Est-ce que on peut parler des croissances économiques depuis son entrée en fonction? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, merci encore une fois. Sur le plan social, je suis de l'avis que les choses, s'il y aurait eu des choses qui ont changé, ce n'est pas des défenseurs substantiels parce que même si le taux de monnaie est stable, mais on se rend compte que sur le marché, les produits des premières nécessités ne font que grimper du coût de vie et prix. Et s'il y a eu des réajustements par rapport pour certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents, tout de suite, ces réajustements sont directement impliqués par la hausse de prix sur le marché. Donc, de ce point de vue, et si je ne prends que ce fait, c'est encore mitigé de ce côté-là. Sur le plan économique, on le sait bien, la diversification qui a été exactement le cheval de bataille dans ce secteur, l'économie continue à dépendre davantage et dans une grande proportion du secteur minier. Et ce qui fait que le secteur minier qui semble constituer réellement le pilier, et le seul pilier ne permet pas exactement à ce qu'on affirme qu'il y a une diversification de l'économie. Bien sûr, le programme qui a été présenté, c'est un programme qui s'étale sur 5 ans. Et il n'est qu'une année qui se passe. Peut-être qu'avec le temps, le gouvernement pourrait améliorer les capacités d'action publique, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan provincial, mais aussi que ce soit sur le plan local. Du point de vue de la sécurité, on le sait bien, la partie orientale, elle est dans une situation de sécurité. L'insécurité, comme je l'ai dit, causée par les EDF, qui perpétuent des massacres de paisibles populations dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains, mais aussi l'émergence du M23 avec l'AFC appuyée par des forces étrangères, qui ne font qu'étendre leur zone de défiance qui au départ était concentrée dans certaines parties de la province de Nord-Kivu. Et de plus en plus, maintenant, c'est les Sud-Kivu qui connaissent exactement ces situations de sécurité. Donc, de ces différents points de vue, comme je l'ai dit au début, les bilans restent mitigés. Et mitigés dans le sens où il y a des actions positives, bien sûr, qui ont déjà été posées par le gouvernement Judith Mino. Mais aussi, il y a encore énormément d'efforts à fournir pour que les situations changent sous les terres.
Vous êtes très nombreux auditeurs et auditrices de Radio Capi à suivre cette émission, envoyé des réactions sur nos différentes plateformes. Là, je parle des internautes. Wilkins Mobonda. La gestion demeure totalement sombre et dramatique pour le pays. Je suis un entrepreneur, je suis à Goma. Pour le moment, je suis totalement nul, je pense qu'il veut dire fauché. Les rebelles nous ont tout pris, les jeunes abandonnés. Je me demande où se trouvent les 6 millions d'emplois. Jean-Herbert Chimanga, depuis Kasumbalesa, pour moi le bilan de Madame Souminwa est assez positif, mais beaucoup d'efforts restent encore à faire. On va ouvrir le standard pour prendre aussi ceux qui sont au téléphone, ceux qui attendent en ligne, qui veulent donner aussi leurs avis. La direction Bukavu pour écouter cet auditeur.
Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Okapi. Moi, c'est Gabriel Ekwalanga depuis Bukavu, Sud Kivu. Alors, le bilan annuel de la première ministre à la tête du gouvernement congolais est à mon avis très négatif. Puisque depuis son accession à cette prestigieuse fonction, notre pays ne fait que traverser des crises multiformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Sur le plan économique, par exemple, le taux du dollar américain par rapport au franc congolais ne fait que grimper du jour au lendemain, rendant ainsi le pouvoir d'achat très difficile aux Congolais lambda. Sur le plan social, il n'y a aucune amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. On assiste encore au chômage, à la dégradation de nos infrastructures, surtout routières, grève des enseignants du primaire et du secondaire, qui réclament l'amélioration des conditions salariales. Sur le plan sécuritaire, là, c'est le chaos total suite à la prise d'une grande partie de la province du Nord et celle du Sud Kivu par l'AFC M23. Les problèmes au pays sont nombreux que je ne saurais pas tout détailler compte tenu de l'immensité de notre pays ainsi que de sa complexité. Merci beaucoup.
Jean-Michel Kalongi, parlons de l'aspect ou du plan sous le plan sécuritaire. Voilà, vous avez suivi cet auditeur de Bukavu qui estime que le bilan est vraiment négatif, hein, surtout avec la prise de deux grandes villes comme Goma et Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.
Il est vrai que la ville de Goma est tombée, il est vrai que la ville de Bukavu est tombée, mais il faudrait dire que nous sommes face à une situation qui n'est pas causée ou défaite par Madame Judith Suminwa. Il faudrait constater que cette situation a été décriée par Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba après Sun City pour dire que nous devons arrêter avec cette armée où nous amenons tous les belligérants. Nous avons le RCD Goma, le MLC, RCD KML et tout le monde qui ont intégré des rebelles, des belligérants dans l'armée. Donc nous n'avons pas une armée homogène. Le M23 est issu de l'armée congolaise parce que le président Kabila avait pris la décision de déplacer le commandement de la partie est pour leur envoyer dans le camp Kamina. C'est ça la naissance de toutes ces factions rebelles. Cette armée n'est pas capable d'aller en guerre avec ses frères parce qu'ils considèrent que les autres qui sont de l'autre côté. Donc nous avons décrié cette situation et une armée mal outillée, pas trop bien préparée, que le gouvernement a hérité. Voilà pourquoi Madame Soumina a fait le tour du pays et a envoyé ses ministres partout dans le pays pour sensibiliser pour un nouveau recrutement des patriotes, des Congolais, pour entrer dans l'armée, pour que l'on forme une armée dissuasive capable de sécuriser nos frontières. Nous avons cette situation. Il faudrait savoir que pendant l'année 2024, le budget du gouvernement de l'armée de la défense a été multiplié par 3 par 4. Donc nous ne pouvions pas nous retrouver dans cette situation de perdre nos territoires, mais il est un fait et aujourd'hui toute l'énergie est déployée sur le plan diplomatique, sur le terrain. Aujourd'hui, on essaie de maîtriser l'avancement
du M23 qui est soutenu par plusieurs armées extérieures. Il ne faudrait pas seulement citer le Rwanda, mais nous pensons qu'il y a d'autres armées qui soutiennent le M23. Mais aujourd'hui, on essaie de maîtriser. Ils ne sont pas allés plus loin que ça. Et on va voir comment reprendre les dessus sur le M23. Le président de la République l'a bien dit que cette guerre, nous allons la gagner, quel que soit le temps. Mais ce que nous déplorons le plus, c'est le sang du peuple congolais, de nos frères et sœurs qui coulent tous les jours. Voilà pourquoi le président de la République s'est résigné d'accepter les négociations que certains pays nous permettent d'avoir, font une viennent en médiateur. Nous parlons de l'Angola, nous parlons du Qatar qui apporte des solutions, nous parlons aussi du Kenya qui apporte des solutions pour que nous trouvions une solution et nous puissions ramener la paix dans la partie Est. Mais je voudrais dire après Tengue que cette situation que nous avons aujourd'hui, elle est du fait de nos dirigeants qui n'ont pas vu cela, dont son leader Martin Fayoulou, qui était membre du gouvernement, membre du Parlement dans ce pays, qui a été membre du Parlement provincial ici. Et que quand il parle de la corruption, il doit savoir que le maître d'école qui a appelé à tous les députés la corruption, c'est Martin Fayoulou, qui était membre de l'Union sacrée de Jean-Pierre Bemba, qui a refusé de voter Alain Ada Bombolé, mais qui a voté son frère du village
merci Jean-Michel Kialongi. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Kikwit.
Et Monsieur Patrick Ipungu à Kikwit. Concernant le bilan de Madame Judith Suminwa à la tête du gouvernement de la RDC, d'une manière générale, le bilan est largement négatif parce que du point de vue sécuritaire, toute la partie Est est presque occupée par l'ennemi. Et de l'autre côté, à l'Ouest, la situation Mobondo persiste toujours. Alors, au niveau des villes, le banditisme irmé gangrène toujours et la situation va toujours du mal empire. Sur la situation économique, ce que nous pouvons dire est que la situation reste toujours chaotique parce que rien n'a changé, la panier des aménagères ne change presque pas et ce que nous pouvons retenir des bons de Madame Judith Suminwa, c'est seulement il a tenté de stabiliser les taux d'échange sur les marchés.
Alors, Prince Epengue, vous vouliez parler de la sécurité. Hein. Cet auditeur pense aussi que sur le plan sécuritaire, le bilan est négatif, mais il y a quand même un point positif qu'il retient de Madame Suminwa, c'est la stabilisation du taux d'échange sur les marchés. Parlons de la sécurité.
Madame, moi, Prince Epengue, je suis inquiet. Très inquiet parce que quand j'entends un haut cadre d'IDPS dérouler avec facilité, légèreté et l'argumentaire selon lequel les fautes c'est les autres et que Félix n'a aucune responsabilité dans ce chaos, je comprends pourquoi le sentiment de l'urgence n'habite pas Félix Tshisekedi. Pour l'IDPS et pour l'Union sacrée, comme votre président de celui qui régule les médias,
c'est ça
a dit dernièrement que ce n'est pas la première fois que Goma tombe entre les mains des rebelles, donc faut pas en faire un problème. C'est très dangereux ça. C'est extrêmement dangereux. Quand vous êtes numéro 9 dans une équipe, vous êtes là pour marquer le but. Si vous ne marquez pas le but, on vous sort du terrain. Nous étions dans un pays sérieux, mais c'est Félix Tshilombo aurait déjà démissionné depuis longtemps. Nous avions un peuple exigeant, les gens seraient dans la rue pour demander le départ de M. Félix Tshilombo et le départ de Mme Judith Suminwa. Parce que sous les responsabilités, des territoires de la patrie sont partis. Et lui nous dit, non, on attend Doha. Je lui informe que Doha, là-bas, Félix et Kagame sont partis parler affaires. C'est pas pour la sécurité des Congolais.
Vous voulez que c'est pas présent.
Ah, donc on ne parle pas de la sécurité, on parle de business, maman.
Les Qataris, c'est l'argent.
Ils ont.
Partout où ils sont, les Qataris n'est pas les quais de l'argent. Les Qataris les appellent pour dire, écoutez, moi j'ai mes intérêts là-bas, attention, votre guerre là, ça me dérange, c'est tout. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? C'est ça la vérité. Donc ici, quand j'entends les messieurs dire, oui, la faute de Fayoulou, bon, écoutez, vous savez, Fayoulou, c'est un fouimir. Si vous ne tapez pas sur Fayoulou, vous allez taper encore sur qui? Je vous comprends. Mais Fayoulou est un modèle dans ce pays, messieurs. Et le peuple le sait. Donc la sécurité des Congolais, du territoire congolais et des biens n'est pas assurée. Si je dois aller faute de temps, malheureusement, je serai dans les détails de tout ce que Félix a promis pour amener la sécurité. Félix a été où? Il a été même sollicité l'armée du Sud-Soudan. Sud-Soudan n'a pas d'armée. C'est un groupe de violeurs, de bandits, de kidnappeurs, de pédophiles et de PD.
On va éviter de traiter une armée d'un pays.
Mais le Sud-Soudan n'a pas d'armée, madame.
Comme vous venez de le faire. Non. C'est un pays qui a un président, qui a des institutions. On va vraiment éviter ce genre de propos.
Merci parce que vous ne voulez pas la vérité. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient mentir. Et ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que Félix a été à Dar es Salaam. Il a été à Luanda. Il a été au Kenya, à Nairobi. Il a été où encore? À l'Union africaine. Il est maintenant à Doha. Prochainement, peut-être la prochaine destination sera l'Afghanistan. Pour chercher quoi? Soi-disant la paix. C'est pourquoi nous lui disons, revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux.
Les fondamentaux,
c'est le dialogue, c'est une question, c'est tel qu'on le conçoit, parce que toutes les parties prenantes sont d'accord. Voilà pourquoi je voudrais dire à mon frère de l'IDPS, qui pense qu'il n'y a pas d'urgence aujourd'hui, que Félix peut continuer à voyager, peut continuer à voir les gens, la sécurité des Congolais devrait constituer la priorité numéro un. Et c'est ça ce que Mme Égypte nous avait même dit, que, à part la macroéconomie, la sécurité est une priorité des priorités. Maintenant, une année après, la catastrophe est arrivée. Des provinces échappent au compteur du Congo. Vous pouvez nous dire que ce bilan-là est positif. Oh, nous savons tous que sans la sécurité, il n'y a pas d'économie. Sans la sécurité, il n'y a pas d'emploi.
Merci.
Sans la sécurité, il n'y a pas de santé non plus. Sans la sécurité, il n'y a pas d'éducation. Comment voulez-vous, madame, qu'on puisse nous dire que non, les bilans sont positifs, alors que les professeurs d'université, les enseignants, les médecins, dernièrement, il y a eu des grèves partout. Des grèves partout. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de courant. Et c'est pas, mais ces derniers temps, c'est pas comment, madame, vous préparez même vos émissions à la maison, certainement avec votre torche. Donc, dans tous les pays, ça ne va pas. Là, merci. Nous parlons de Kinshasa. Allez à Mbandaka, allez à Bouyende, allez à Ngandajika. Vous avez l'impression que les gens sont en enfer.
Merci beaucoup. Professeur Kizito Gosheya Moussambala Nyang est bienvenu depuis la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, qui dit ceci: après un an à la tête du gouvernement, Madame Judith Suminwa a initié des réformes économiques ambitieuses avec une hausse des investissements publics, plus de 18,2%, une diversification économique renforcée et un soutien accru à l'agriculture, plus de 16,4%. Cependant, ces mesures n'ont pas encore produit d'impact significatif sur les quotidiens des Congolais. Le coût de la vie reste élevé et l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat malgré les tentatives de stabilisation économique sur le plan sécuritaire. Bien que le budget de la défense ait été augmenté plus de 25,2%, les conflits persistent à l'Est menaçant la stabilité nationale. Les défis majeurs restent la pacification du pays, la transformation des investissements en résultats concrets et l'amélioration des conditions de vie. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout par rapport aux défis?
Effectivement, les défis sont énormes. Au niveau, par exemple, de la diversification de l'économie, comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo reste encore très dépendante des importations. Autrement dit, nous consommons ce que nous n'improduisons pas. Et au niveau interne, je l'ai encore souligné, l'économie dépend fortement du secteur minier. Or, on le sait sur le plan international et sur le marché international, quand les matières premières basculent, automatiquement, ça va impacter notre capacité, notre budget. Alors que si cette économie était fortement diversifiée, les autres secteurs des activités économiques pourraient constituer réellement des leviers importants pour pouvoir subvenir et maintenir un minimum d'équilibre. Du point de vue social, comme certains de débatteurs l'ont évoqué ainsi que certains auditeurs, bien évidemment, il y a un minimum d'observation d'une certaine stabilité de la monnaie parce que depuis quelques temps, le taux d'échange varie entre 2800 et 2900. Les craintes, c'était que peut-être que ça pourrait arriver jusqu'à 3000, mais heureusement que jusqu'à l'heure qu'il est, ça aussi encore en laissant quand même des 3000 francs.
Alors, professeur,
en dépit de cela, on se rend compte qu'il y a quand même une hausse de prix sur le marché. Et ce qui fait que la stabilisation de ce taux d'échange n'a pas vraiment beaucoup d'effet eu égard à cette augmentation du prix des denrées des premières nécessités sur le marché. Sur le plan sécuritaire, parce qu'effectivement aussi, les gouvernements doivent développer ses capacités de défense pour pouvoir arriver à maintenir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et quand il y a certaines zones géographiques qui échappent en contrôle du gouvernement central, ça veut dire effectivement qu'il y a un problème. Un problème, bien sûr, qui est en train de se mettre dans la situation actuelle, d'autant plus que les rapports de force sur le terrain montrent exactement que la ville de Goma a été prise depuis quelques temps et la zone d'influence de M23 de l'AFC est en train de s'étendre dans la province du site Kivu, mais aussi qui s'étend de plus en plus dans l'ancienne province orientale, et qui fait que réellement c'est un grand défi pour le pouvoir central de pouvoir arriver à maintenir l'emprise sur l'ensemble des territoires nationaux.
Alors, nous sommes à la fin de l'émission, professeur Gaucher Kizito. Très rapidement, quelles sont les priorités que le gouvernement doit traiter en urgence, en quelques secondes?
En urgence, c'est la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et cela demande à ce que les Congolais, qui soient gouvernants, qui soient dans l'opposition et de la société civile, mettre au point les énergies, convergent tous les efforts possibles pour que la situation sécuritaire soit rétablie sur l'ensemble du territoire et particulièrement l'Est de la République démocratique du Congo.
Merci, professeur Gaucher.
La sécurité constitue un facteur important avec des effets émergents sur les autres domaines socio-économiques.
Merci, professeur Gaucher Kizito. Prince Epengue, soyez vraiment concis parce que nous sommes à la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement souminois pour l'avenir?
Comment voulez-vous que je puisse planter dans
qu'est-ce
un désert
doit,
et entendre...
Qu'est-ce qui doit être amélioré?
Il n'y a rien à améliorer. La seule chose qu'on attend d'elle, c'est qu'elle parte. Et, madame, la situation, elle est grave. Quand on est en guerre, on a besoin des milliers de ces généraux. Oh, madame Judith n'est pas celle qui mérite d'être là. Au demeurant, comme elle a dit, son programme de 6 piliers, elle l'a calqué sur les 6 engagements de son chef. Le chef n'a pas de vision, madame n'a pas de vision non plus, donc c'est normal. Pour nous, ce régime a montré déjà ses limites. Malheureusement,
Vous auriez fait mieux que Madame Touloukassi dans ce contexte, dans le contexte actuel, si vous étiez à sa place.
Entre l'Amouka ADD Congo, l'Amouka de Martin Fayulu et l'Union Sacrée, c'est les nuits et les jours. Il n'y a pas des éléments de comparaison. Vous ne pouvez pas nous mettre en relief. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est plus important, c'est que il y a un problème. Et pour résoudre ce problème-là, il faut d'abord qu'on ait la conscience de son existence. Or, ce que nous craignons, c'est que du côté de l'Union Sacrée, du côté de l'IDPS, on a l'impression qu'ils n'ont pas la conscience que le Congo est au bord du précipice. Quand vous regardez même le fait que Félix Tshisekedi ait appelé son conseiller spécial en matière de sécurité pour lui dire consulter l'Union Sacrée pour un gouvernement de l'Union Sacrée, fais-moi ce cadre-là des règlements des différents de l'Union Sacrée, ça veut dire que pour eux, le pays peut partir. On a même l'impression que ces gens-là, et pour qu'ils se réveillent, il faut que la situation arrive jusqu'à Kinshasa. Et ça, c'est très dangereux, c'est très grave. Merci. Parce que la patrie de Lumumba doit rester unitaire et indivisible. Donc, merci. Nous appelons M. Félix Tshilombo à se ressaisir très vite, parce qu'il y a péril à la demeure. Nous sommes tous prêts à y contribuer, mais pas de la manière dont il est en train de faire les choses. Cette stratégie d'ici à boire la caravane passe risque d'être dangereuse, parce que Félix va entrer dans l'histoire comme le Gorbatchev du Congo. C'est lui qui aura
fatigué la Balkan. Merci beaucoup. On vous a suivi, Prince Epengé. Jean-Michel Kalogi, votre conclusion.
Je voudrais dire, ici, nous sommes dans le seul pays où les personnes qui n'ont encore rien prouvé, qui n'ont aucune compétence, aucun CV, critiquent ceux qui sont les plus valeureux du pays. Et je dis ici que Madame Judith Suminon n'est pas là parce qu'elle était une femme, mais parce qu'elle avait une compétence, elle avait un parcours à l'international et au pays qui faisait d'elle la mieux outillée pour être première ministre. Et que elle a pu démontrer depuis qu'elle est première ministre, une stabilité, une gestion orthodoxe du pays, une structuration de la gestion du pays qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un prix de carburant qui est stabilisé, nous avons le panier de la ménagère qui est amélioré parce que le prix des denrées de première nécessité ont baissé entre 13 et 18%. Nous avons aujourd'hui un taux d'échange stabilisé, ce qui nous permet de nous projeter sur le long terme. Il est vrai que la situation sécuritaire a eu un impact négatif du fait de nos deux plus grandes villes de l'Est qui sont tombées entre les mains de l'ennemi rwandais. Une guerre nous imposée que nous n'avons pas voulu, mais n'est pas du fait de sa mauvaise gestion, mais c'est un fait qui est arrivé et que nous devons gérer. Et pour merci. Gérer ces faits, malgré le financement de la guerre, malgré aujourd'hui les recrutements en masse du peuple congolais pour rejoindre l'armée,
nous sommes à la fin de l'émission.
La multiplication du salaire des militaires.
C'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.